comme les brillants entrepreneurs, épargnez chez Suno Assurance pour garantir le financement de vos projets. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé, émission spéciale en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. La rédactrice en chef de Priorité Santé aujourd'hui est chanteuse, mannequin, comédienne, mais avant tout une femme malienne engagée, Ina Modja, bonjour.
Bonjour.
On est ravis que vous ayez accepté notre invitation. On va parler d'une cause qui vous tient beaucoup à cœur, la lutte contre les violences faites aux femmes. Les chiffres donnés par l'ONU sont édifiants. Au moins 200 millions de femmes et de filles actuellement en vie sur la planète ont subi des mutilations sexuelles féminines et 3 victimes sur 4 du trafic d'enfants sont des filles. 87 000 femmes ont été tuées intentionnellement dans le monde en 2017, dont 58% par leur conjoint ou un membre de leur famille. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 30% des femmes sur la planète sont victimes de violences conjugales de la part de leur partenaire. Et 15 millions d'adolescentes entre 15 et 19 ans ont eu à subir des rapports sexuels forcés, en clair, ont été violées à un certain moment de leur vie. Quand on a été excisé, violé, battu, harcelé, maltraité, comment guérit-on de ces blessures physiques et psychiques? Comment reprendre le contrôle de son corps, de sa féminité, de sa vie? Comment se libérer des carcans imposés par la société, la religion ou les hommes sans se sentir coupable? On va tenter de répondre à ces questions avec nos invités. Docteur Rada Hatem, bonjour.
Bonjour Chantal.
Vous êtes gynécologue obstétricienne, médecin-chef à la Maison des Femmes de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis en région parisienne. La Maison des Femmes dont vous êtes la marraine, Ina Modja. Avec nous également Hawa Kamara, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en psychologie et psychologue clinicienne. Vous exercez à la Maison de Solène et au service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier intercommunal André Grégoire à Montreuil en région parisienne. Et vous y animez un groupe de parole, L'arbre à palabre. Alors, un message à nos auditrices d'abord. Si vous voulez témoigner ou nous poser des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Ina Modja, vous connaissez bien Rada Hatem, puisque vous êtes la marraine de la Maison des Femmes de Saint-Denis, que vous avez créée docteur en juillet 2016. Comment vous êtes-vous rencontrées toutes les deux?
On a un ami en commun qui nous a présenté et qui était sûr qu'on allait bien s'entendre, ce qui a été le cas. On ne s'est pas lâché.
Alors Ina, pourquoi est-ce que vous avez accepté d'être la marraine de cette Maison des Femmes de Saint-Denis?
Parce que je crois dans la vision de Rada et que je pense que la Maison des Femmes est un lieu précieux et qu'il en faut beaucoup plus et que le modèle de la Maison des Femmes est très important pour faire face pour aider, accompagner les personnes victimes de violences.
Et comment se traduit concrètement votre engagement auprès de la Maison des Femmes?
De différentes façons. J'ai eu l'occasion d'être au tout début des groupes de parole pour les femmes victimes d'excision. J'essaye d'être présente le maximum dans, je ne sais pas, je pense que Rada peut répondre mieux que moi.
Alors Rada. Rada Hatem. Donc Ina Modja parlait de votre vision. Quelle était votre vision en créant cette Maison des Femmes de Saint-Denis en juillet 2016?
C'est une vision très simple. C'est la vision de ce que peut être le parcours d'une femme qui a vécu tout ce dont vous avez parlé en introduction. Et je vous remercie de n'avoir rien oublié. C'était très exhaustif. Et de comprendre que pour sortir de ce parcours, pour être accompagnée, il faut une force de caractère peu commune, une capacité de résilience énorme, et que ça va mieux quand le chemin est balisé. Et nous, on est là pour baliser le chemin, pour permettre justement de s'en sortir. Et je voudrais compléter ce qu'a dit Ina. C'est vrai que la rencontre avec Ina a été un moment tout à fait unique, parce que c'était dans un petit café à la Bastille. Mm-hmm. Et Ina, je viens de finir le rapport d'activité. Tu es en première page, je te le donnerai tout à l'heure.
Ah, ouais.
Et ça commence par Ina, une marraine tout terrain. Ina est une marraine tout terrain parce que elle est là quand elle peut pour les groupes de parole. Et un groupe de parole où Ina intervient, je peux vous dire que ça galvanise les femmes. Parce que voilà, moi je suis un docteur blanc. Ma parole est celle d'un professionnel. Mais je ne peux pas être un modèle comme l'est Ina. Et Ina fait rêver les femmes. Elle leur dit, je suis là. J'ai vécu ce que tu as vécu. Et tout est possible, regarde-moi. Ça n'a pas de prix. Ensuite, Ina a organisé un concert exceptionnel, les héroïnes. Ina est sur un projet d'expo d'art et de vente aux enchères. Ina est toujours là quand on a besoin d'elle. Et merci Ina.
Alors, ce lieu se veut un lieu d'accueil pour toutes les femmes victimes de violences, quelles qu'elles soient.
Oui, alors évidemment, on n'est pas très compétent en violence au travail. On n'est pas impliqué dans les inégalités salariales. Les femmes subissent énormément de choses à des degrés divers. Nous, notre focus, c'est bien sûr la santé et tout ce qui tourne autour.
Donc, l'excision en premier lieu, mais aussi les viols, les maltraitances au sein du couple, les maltraitances conjugales.
Tout ce qui a pu faire violence à une femme de par son genre. Alors, ça peut commencer par l'inceste. Je crois qu'il y a quelques témoignages dans ce sens-là. Une toute petite fille peut vivre l'inceste à la maison. Et c'est d'autant plus horrible que c'est un endroit où on est censé la protéger. Donc, c'est la première et la plus affreuse des violences. Et ensuite, il y a les violences conjugales, les viols conjugaux, qui sont les plus fréquents. Le harcèlement de rue, les coups. L'excision qui concerne beaucoup plus de femmes que ce que pense le français moyen. Et tout ça est un continuum parfois de violence. Les femmes peuvent subir toutes ces violences les unes après les autres.
Quelle était la particularité de Saint-Denis, de cette commune de Saint-Denis? Je crois que vous avez été surprise quand vous êtes arrivée à la maternité de l'hôpital de La Fontaine, quand vous avez découvert le nombre de femmes excisées.
Bien sûr, en tant que gynécologue, j'ai évidemment rencontré des femmes excisées tout au long de ma vie, mais c'était relativement ponctuel. Alors que là, les chiffres sur un petit audit que nous avons fait il y a quelques années montraient 14% de femmes excisées sur un mois. Je pense que c'est des chiffres transposables à toute la Seine-Saint-Denis. Donc ça devient un problème énormissime, bien plus important que le pourcentage de cancer du sein ou de diabète pendant la grossesse ou tout ce que vous voulez. Donc oui, c'était quelque chose de nouveau pour moi, ce chiffre.
Combien de femmes vulnérables, en détresse, accueillez-vous chaque jour à la Maison des Femmes?
Alors ça dépend un petit peu du nombre de médecins et de sages-femmes qui consultent ce jour-là, ou de juristes ou de psychologues. C'est 30 à 50 en moyenne par jour.
Et alors, vous teniez à ce qu'il y ait une prise en charge globale par des équipes pluridisciplinaires, médecins, psychologues, avocats, dans un même lieu? C'était ça la ligne directrice de votre projet?
Tout à fait. C'était simplifier le parcours. Parce que à partir du moment où je me suis intéressée un peu plus spécifiquement aux violences faites aux femmes, qui sont pas un sujet qu'on apprend à la faculté de médecine, hein. C'est un sujet, on va vers ce sujet quand on y a été sensibilisé. Et là, on découvre que c'est un impact important sur la santé en général, et donc que c'est aussi une œuvre de santé publique que de s'en préoccuper. Et donc, quand je me suis intéressée à ce sujet, j'ai très vite compris que la difficulté, c'était de trouver des lieux où on vous écoute, où on vous croit, et des lieux où on n'est pas obligé de répéter tout le temps. Où les gens se parlent, où les gens travaillent ensemble, où les gens se coordonnent pour vous aider à vous en sortir. Et je me suis dit, ce lieu-là, j'en ai pas croisé dans ma vie. Peut-être, et c'est vraiment un concept très très simple, on pourrait le faire.
Et ça passe aussi par une attention aux détails, comme la présence d'interprètes pour traduire les propos de femmes qui ne parlent pas français ou qui ne maîtrisent pas bien la langue.
Ça, c'est essentiel. Soigner en langue étrangère, c'est tout un métier. Et c'est vrai que dans certaines régions de France, on y est beaucoup plus confronté. Donc oui, avoir des interprètes, c'est fondamental, parce que si vous comptez sur la famille pour traduire, vous ne savez pas exactement ce qu'on va vous traduire. Et le malaise peut naître là.
Awa Camara, vous avez la même démarche au CHI André Grégoire à Montreuil que celle de Hada Hatem à Saint-Denis?
Oui, tout à fait. On a aussi une unité d'accompagnement personnalisé des femmes victimes de violences.
Et vous animez donc ce groupe de parole, joliment baptisé l'Arbre à Palabre. Qu'est-ce qui se passe dans ces groupes de parole?
Alors l'Arbre à Palabre, en fait, c'est un groupe de préparation et d'accompagnement à la parentalité Et notamment, on parle beaucoup autour de la grossesse, de l'accouchement. Mais c'est vrai que très vite, la question des violences, des mutilations sexuelles, les femmes l'abordent, tout comme leur migration, l'isolement. L'idée, c'était vraiment de regrouper, en fait, des femmes qui viennent de partout dans le monde, qui ont une expérience de la maternité différente de celle d'ici, et de pouvoir confronter, justement, les différents modèles, de pouvoir dire qu'on peut être mère ici à sa manière, en prenant des choses de là-bas et en les mélangeant avec des choses d'ici.
Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent lorsque vous animez ce groupe de parole?
Alors, beaucoup la question de la péridurale. C'est une question qui revient à tous les groupes. Est-ce qu'il faut faire la péridurale ou pas? Est-ce que ça fait mal au dos? La question de l'allaitement aussi. Les femmes parlent beaucoup de leur isolement. Donc, on a beaucoup de femmes aussi qui sont très isolées, qui vivent dans des hôtels 115, qui se retrouvent seules avec leur bébé. C'est pas un modèle qu'elles connaissent. Elles ont l'habitude d'être entourées au moment de la grossesse. Donc, c'est vrai que c'est des sujets qui viennent souvent. En tout cas, on en parle souvent. Parfois, elles parlent effectivement de violences subies, notamment dans le parcours migratoire aussi. Parce que le parcours migratoire peut être très long, très violent. Donc ça permet aussi de pouvoir discuter entre elles, mais aussi de pouvoir créer du réseau. Puisque le groupe, je le co-anime en fait avec une gynécologue obstétricienne et une sage-femme de PMI, ce qui permet d'ouvrir vers l'extérieur. Et c'est vraiment cette idée de pouvoir faire que les femmes se rencontrent, qu'elles échangent et qu'elles puissent rencontrer des professionnels qui les accompagnent tout au long de la grossesse et bien après.
Rada Hatem, vous dites la violence, ce n'est pas que les coups, c'est aussi les traumatismes. Est-ce que les traumatismes sont encore plus difficiles à prendre en charge que les conséquences physiques des violences?
Oui, parce que ça ne se voit pas. Et parfois les femmes disent, je préférais encore qu'ils me tapent. Parce que quand vous êtes perpétuellement humiliée, rabaissée, dénigrée, et que votre estime de vous-même fond comme neige au soleil, il est extrêmement difficile de se reconstruire.
Mais vous n'aimez pas le mot de victime, pourquoi? Vous lui préférez celui de survivante?
Parce que victime, c'est un côté tellement petite chose, fragile, incapable. Les femmes sont victimes de violences sexistes, évidemment. Mais les femmes valent bien plus que ça. Les femmes sont des héroïnes. Et d'ailleurs, c'est le concept que nous avons développé avec Ina, notre héroïne.
Vous êtes d'accord, Ina? Le mot victime, vous aussi
Oui, absolument. Il faut sortir de
la victimisation.
De la victimisation et devenir des survivantes. Et je pense qu'il y a plusieurs étapes dans ça. Je pense que moi, personnellement, je me suis sentie victime pendant une partie de mon adolescence parce que mon excision a été pratiquée à l'insu de mes parents quand j'avais 4 ans et demi. Et ensuite, dès que j'ai réussi à prendre un peu plus contrôle sur ma vie, je me suis sentie survivante tout de suite. Et maintenant, j'essaie juste de vivre et d'arrêter de survivre.
On va revenir tout à l'heure sur ce qui s'est passé donc pendant votre enfance au Mali. On va prendre des appels d'auditrices au standard. Kiné, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Dakar au Sénégal. Vous avez eu une enfance extrêmement douloureuse. Est-ce que vous pouvez nous raconter?
Bon, j'ai eu une enfance pas comme les autres. De 6 à 12 ans, j'ai été victime d'abus sexuels répétés. Et mon agresseur, c'est mon géniteur. Il m'en faisait peur, il menaçait de me tuer. J'ai jamais osé le dénoncer. Maintenant, les années passées, jusqu'au jour où j'ai vu mes règles pour la première fois. J'ai eu peur parce que dans la semaine, il y a une camarade de classe qui saignait. Et l'institutrice en a profité pour nous faire une petite introduction sur l'éducation sexuelle. Maintenant, entre camarades de classe, on palabrait sur les règles, sur le contact avec les hommes, que ça pouvait engendrer une grossesse. Et là, j'avais vraiment peur, terriblement peur d'ailleurs. J'ai décidé de le dénoncer. À ce moment-là, je vivais avec lui. Et je suis allée dans la grande famille où vit la grand-mère maternelle. Je lui ai dit, elle m'a pas cru, elle m'a tout simplement dit, je ne peux pas te croire. Je n'en revenais pas, mais j'avais quand même gardé un manuscrit. Parce que tout ce qu'elle me faisait subir, je pouvais pas l'exprimer. Je pouvais pas le dire à n'importe qui. J'écrivais. La première fois, il a découvert le manuscrit, il l'a brûlé. Et depuis lors, il en cherche dans la chambre. Quand je dors, quand je suis à l'école, il recherche les manuscrits, il les brûle parce qu'il ne voulait pas que je parle. Maintenant, j'en ai parlé à la famille. À l'époque, j'avais 12 ans, c'était en 2009, ça n'a abouti à rien. Ils m'ont tout simplement pas cru parce que lui, il est venu avec un de ses amis, qui est un ancien inspecteur de police. Et ensemble, ils ont fait quoi à la famille que ça ne va pas chez moi, que je suis folle.
Docteur Ratem, ça arrive souvent, ça, comme avec ce témoignage de kiné, que la famille préfère ne pas croire?
Bien sûr, c'est même le drame absolu, parce que en général, l'enfant n'est pas cru. D'abord parce qu'on pense que les enfants affabulent, et ensuite parce que ça arrange beaucoup la famille d'avoir une espèce de cécité sélective, parce que tout le monde est très angoissé par quelle image de notre famille on va donner, que vont penser les voisins, ça n'est pas possible. Et finalement, on préfère laisser l'enfant seul face à sa souffrance que de dire, ben voilà, regardons les choses en face, cet homme est un agresseur, cet enfant est une victime, et ça ne peut pas durer.
Alors, kiné appelle son père mon géniteur. Qu'est-ce que ça signifie aussi, employer ce terme de géniteur plutôt que mon père?
Je le comprends très bien comme étant, j'ai un lien biologique avec cet homme, mais je n'ai pas de lien affectif. Pour moi, elle fait cette différence-là, parce que un père protège ses enfants, un père ne viole pas ses enfants, ça ne devrait pas exister. Et hélas, ce n'est pas si rare que ça.
Kiné, vous avez quel âge aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'ai 22 ans.
Et alors, vous avez pris la décision d'entamer une procédure judiciaire contre votre père. Comment vous êtes arrivé à cette décision?
D'abord, c'était pas du tout facile, mais j'y pensais depuis toujours. Maintenant, il a fallu que ma petite sœur subisse la même chose. Ça m'a beaucoup révoltée. J'ai pas voulu agir du tic au tac. Je suis allée voir le grand-père paternel, son père à lui. Il m'a fait une confidence. Il m'a dit, tu ne peux que pleurer, tu ne peux rien contre lui. C'est ton papa, il y a la société, il y a la religion, etc., etc. Tout ce que tu peux faire, c'est te concentrer sur les études, essayer de supporter et essayer d'oublier. Il m'a fait la confidence comme quoi que deux de mes tantes paternelles, c'est-à-dire deux de ses sœurs, ont été victimes. Là, je n'en revenais pas. Je lui dis que c'est pas possible, on ne peut pas continuer de ce terme. Mais vous savez, avec la tradition, la religion, on se soucie trop de ce que les autres vont penser, du quand dira-t-on. Alors depuis ce moment-là, je suis allée à mon université, qui n'est pas à Dakar. J'ai contacté immédiatement l'AGS, je leur ai soumis le problème. La dame que j'ai eue m'a dit, la seule chose que tu peux faire pour protéger tes autres sœurs et les autres filles qui sont autour de toi, c'est de dénoncer le viol. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas parce qu'en ce moment, je n'étais pas prête. Mais j'ai décidé quand même, dès ce moment-là, d'aller assister à des panels sur les violences faites aux femmes. Ça m'a beaucoup aidée. Quand je suis à ces panels-là, je témoigne pas. Je laisse les autres témoigner, je les écoute. Et ça me fait piquer des crises malgré moi. Je ne sais pas, mais ça me fait vibrer de l'intérieur. Je ne supporte pas, parce que moi aussi, je suis une victime en silence. Maintenant, bon, c'est par là que j'ai fait la rencontre avec une psychologue qui est à Dakar ici même. Elle m'a donné une première fois rendez-vous, j'y ai pas été. La seconde fois, on s'est encore recroisé lors d'un autre panel où j'ai encore piqué une crise. Et là, je me suis confiée à elle. Tout ce qu'elle me disait, c'est qu'il fallait porter plainte, mais j'étais pas prête. Je suis restée pendant des mois. J'ai pensé à mes autres sœurs qui peuvent être aussi victimes si moi je n'agis pas. J'en ai d'abord parlé aux membres de la famille. Je leur ai dit, bon, on peut aller porter plainte. On peut le protéger si vous voulez. On peut dire qu'il est malade, que ça ne va pas dans sa tête, mais ce qu'on me répondait, c'est que c'est un malade, c'est un sadique, tu es l'unique fille de ta maman, il serait capable de te tuer. Essaie de l'oublier, essaie de supporter et d'avancer. Ceux qui me disent de supporter et d'oublier, ils n'ont pas vécu ce que moi j'ai vécu. Il fallait que je le fasse pour être quitte avec ma conscience, il fallait que je le fasse pour mes sœurs, pour les autres. Et là, depuis quelques mois, il m'a fallu beaucoup prendre sur moi-même, suspendre mes cours à l'université pour l'attaquer.
Et aujourd'hui, vous avez coupé les ponts avec votre famille paternelle comme maternelle?
Je n'ai pas coupé les ponts avec ma famille paternelle. On ne coupe pas les ponts avec sa famille, c'est impossible. Je ne dirais pas que je les comprends, mais j'accepte leur décision. Dans ma société, moi, je ne suis pas une Française, je ne suis pas une Américaine, encore moins. Je suis dans une société où on laisse faire. Il y a le laxisme, il y a le soutoura, il y a beaucoup de choses. C'est comme ça depuis belle lurette, je ne peux pas changer les choses. J'accepte leurs décisions. Je sais qu'ils m'en veulent à mort, mais c'est très normal de leur part. Je ne pouvais pas espérer mieux.
Ina Modja, comment vous réagissez à ce témoignage très fort de Kiné?
Bah, je trouve que Kiné est une jeune femme très courageuse et qui qui a pris les bonnes décisions, c'est-à-dire de porter plainte pour sa protection et celle de ses petites sœurs. Je ne sais pas honnêtement ce que j'aurais fait à sa place, mais je comprends qu'effectivement le poids de la famille et de la société soit un vrai frein, et je lui souhaite de guérir et de penser les blessures que son père a pu lui laisser.
Docteur Camara.
Effectivement, je rejoins Ina Modja sur le courage de Kiné, et je trouve qu'elle le dit très bien quand il faut respecter aussi la temporalité de ces femmes-là. Quand elle a voulu porter plainte, il lui a fallu du temps. Et effectivement, c'est aussi, elle le dit bien, le lien avec la famille est d'autant plus compliqué quand on est dans des sociétés où les choses sont pensées de manière collective. Là, en faisant ce choix de se protéger, de protéger les autres filles autour d'elle, elle s'individualise, elle s'autonomise, et peut-être il y aura besoin en tout cas de cette distance à un moment donné avant de pouvoir en tout cas régler les histoires familiales. Mais le moment le plus difficile, je pense, c'est aussi de porter plainte. Finalement, elle prend une position et qu'elle se désaffilie d'une certaine manière à cette famille.
Docteur Ratem.
Moi, je suis impressionnée par non seulement le courage de Kiné, mais sa capacité à avancer, à aller à l'université, à ne pas se laisser complètement détruire. Et Kiné, bravo. Après, ça me met extrêmement en colère, moi, ces témoignages, parce que j'entends la société, j'entends la coutume, je viens moi-même d'une partie du monde où ces choses-là comptent.
Le Liban.
Mais on ne peut plus accepter ça. Jamais la famille, la communauté, la tradition ne doivent prendre le pas sur l'intégrité des enfants. Ça n'est pas possible.
Kiné, qu'est-ce que vous éprouvez aujourd'hui pour votre père? Est-ce que vous préférez ne pas penser à lui? Est-ce que vous éprouvez du ressentiment, de la colère, de la haine? Qu'est-ce que vous éprouvez?
Quelquefois, il me fait pitié. Surtout depuis que l'enquête suit son cours et que d'autres filles, d'anciennes domestiques de la maison, des filles sortent de nulle part et témoignent, des filles avec qui j'ai partagé les classes, des filles qui ont été des amies à moi, quelquefois il me fait pitié. Mais je n'accepte pas d'avoir pitié de lui parce que lui, il n'a pas eu pitié de moi. J'essaie quand même de ne pas trop penser à lui, j'essaie d'avancer.
Et quels sont vos projets justement pour vous reconstruire?
Mes projets pour me reconstruire ont débuté depuis l'âge de 8 ans. Parce qu'un jour dans ma classe, je me suis rendu compte que je ne faisais que pleurer. Et les camarades me demandaient tout le temps pourquoi est-ce que je pleurais. L'institutrice, quant à elle, elle me grondait. Elle était loin de s'imaginer mon calvaire. Le papa, il était toujours là, le père gendarme. Il t'offre des cadeaux. Le jour de ton anniversaire, on dirait que tu es la fille du président de la République. Il était trop possessif. Même le jour des distributions des prix, il est là, tu prends, tu récupères ton prix et tu rentres à la maison. Pas de fête, tu ne sais pas ce que les filles de ton âge font. Donc, il m'était difficile de me confier. Maintenant, un matin, j'ai regardé toute ma classe. Je me suis détournée. Toutes les filles étaient sur leur copie, à écrire, à rédiger leurs devoirs. Moi, je n'y parvenais pas parce que je pleurais. C'est en ce moment-là que je me suis dit que, mais bon, ce que moi je vis, ces filles-là ne le vivent pas. Je suis la seule à pleurer chaque matin et on me demande à chaque fois le problème. Je ne parviens pas à le dire. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que j'arrête de pleurer et je travaille comme les autres. Et là, le déclic était parti. Voir mon nom sur la tête de la liste de la classe, ça me revigorait parce que j'avais perdu toute estime de ma personne. Et c'était parti ainsi avec la lecture, à travers la littérature. J'essayais de surmonter. Je participais à pas mal de concours d'écriture, etc., de concours quelconques. Et j'étais vraiment pas mal, pour ne pas dire excellente. Ça me revigorait. J'essayais de me reconstruire à ma manière, même si c'était pénible. À chaque fois, il était là à te traiter de prostituée. Mais ce n'est pas un problème si lui qui vraiment t'a fait connaître la vie te traite de prostituée. Ce n'est pas un problème.
Qu'est-ce que vous avez envie toutes les trois de dire à Kiné, Ina Modja?
Et quel courage, vraiment une résilience et une force incroyable. Et qu'à 8 ans, elle ait eu ce réflexe de commencer à se soigner, à penser ses blessures. Pour moi, c'est assez extraordinaire et je lui souhaite que le meilleur. J'ai envie de connaître plus l'histoire de Kiné. Écris un livre, fais quelque chose, mais il faut que ta parole soit entendue parce qu'elle est très importante.
Docteur Camara.
Pareillement, je suis impressionnée par le discours de Kiné et sa capacité de résilience en tant que petite fille déjà. elle, par les concours, l'intellectualisation. En tout cas, elle en a fait quelque chose, elle en a fait sa force. Et je trouve que c'est important parce que souvent, ces femmes-là, elles ont honte de ce qu'elles ont subi. Et là, Kiné, elle le dit très bien, finalement, j'en ai fait quelque chose. Et j'espère qu'il y aura d'autres femmes comme Kiné qui auront cette force de pouvoir parler et d'avancer.
Docteur Rada Hatem.
Eh bien, moi, je ferai un plaidoyer pour l'école. Voilà, je trouve ça merveilleux que l'école ait permis à Kiné d'avoir une autre image d'elle-même et de travailler sa résilience. Et Kiné, présidente de la République du Sénégal, hein, ça vous dirait?
Kiné, vous avez entendu la suggestion du docteur Rada Hatem?
Non. Ouais.
Kiné, présidente.
Présidente
non,
du Sénégal.
Pas du tout. Non,
il
pas
faut,
du tout.
Il faut des femmes comme vous. Sinon,
vous
le monde
savez,
ne changera jamais.
Vous savez, moi, mon plus grand rêve, si ce n'est pas de publier mon roman qui sortira bientôt, je l'espère, c'est de m'en aller de ce pays, de m'en aller tout simplement. Parce qu'il y a tellement de problèmes. Ceux qui sont censés vous protéger, c'est eux qui vous bousillent la vie. Et c'est vraiment pénible. Ce n'est pas à moi de changer les choses. Je fais une partie de ce combat. Et je laisse aux autres le soin de continuer les choses. Vous savez, le Sénégal, ce n'est pas tout simplement la justice, ce n'est pas tout simplement la politique. Il y a les marabouts, les guides religieux, les guides coutumiers.
Kiné, est-ce
qui,
que...
à mon avis, oui. ont vraiment, comment dirais-je, ils ont tout simplement failli à leur mission, à leur rôle, tout simplement à cause du pouvoir, à cause de l'argent.
Kiné, vous êtes étudiante actuellement à l'université. Qu'est-ce que vous étudiez?
J'étudie ma grande passion, le cinéma, les arts et la culture.
Ah ben voilà, vous avez un point commun avec Ina Modja.
Ouais.
Venez.
Oui, en tout cas, je serai la première à acheter votre livre quand il sortira.
Merci.
D'accord.
Merci beaucoup, Kiné, hein, pour votre témoignage. On vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force. Et on espère avoir de vos nouvelles très bientôt. Docteur Rada Hatem, je vais vous libérer parce que vous êtes attendu à Saint-Denis, où va être posée aujourd'hui la première pierre du projet d'extension de la Maison des Femmes. La première pierre. Voilà, aura lieu tout à l'heure.
Merci beaucoup.
Bidona, Kongobora, San Salutani Fila Kono Kamenya Nina, Anga Moku Pekasa Dungudu, Kokele Munteban, Ode Dabora, Antansigi Kanda Minesa, Kanga Dugutu Kafiru Bolusa, Uko Kubi Normine, Kubi Sudmine, Lise Kunchefe Kubani Mine. Dugu jera, lebora, uyu kali kute kidali segi auma anga dugu beka chidungudu suruku donanga katahinana anga mago beka murutisa kute kafiri jelasa uko kubamba umine kubamba umine lese kunchepe kubanda amine.
Blackout. Tombouctou, Bidona, Gao, Bidona, Sigato, Bidona, Gaudin, Bidona, Jenne, Bidona, Kidal, Bidona, Nyafunke, Bidona, Segu, Bidona, Kuliko, Bidona, Barkala, Bidona, Bamako, Bidona, Segu, Bidona, Nyafunke, Bidona, Gosi.
Dibidona, Kongobora, San Kalutani Fila Kono Kamenyanina, Amo Kupeka Sadu Budu, Kokele Munchebang, Odi Dabora, Antansi Gikanda Minesa, Kanga Dugutu Kafiri Bolusa, Kokele
escuché de Cuba niña. Cuba niña. De Cuba niña. Cuba niña. De Cuba niña.
Tombouctou, Inamoja dans Priorité Santé sur RFI. Cette chanson Inamoja figure sur l'album Motel Bamako que vous avez sorti en 2015. À qui vous adressez-vous à travers cette chanson ?
J'ai écrit cette chanson quand la crise a commencé au Mali en 2012. Je m'adressais au peuple malien, mais aussi à tous les peuples qui étaient victimes de terrorisme. Parce que le nord du Mali a été occupé, et l'est encore d'ailleurs, par des groupes armés djihadistes.
Et les femmes en ont souffert.
Les femmes, dans toute guerre, les femmes et les petites filles sont les premières victimes, sont celles qui souffrent le plus.
Ina, à quand remonte votre engagement contre les violences faites aux femmes ?
Quand j'avais 19 ans, ça fait maintenant 15 ans, le temps passe vite. Et les choses avancent très lentement, mais depuis quelques années, je constate que ça bouge un peu. Et c'est une lutte qui est fatigante, mais je ne peux pas faire autrement. J'ai vu mes deux parents être féministes engagés toute leur vie. Donc j'ai grandi dans une famille où c'était important de prendre la parole, où c'était important de faire quelque chose sur le terrain. Pour moi, je n'imaginais jamais que j'allais en faire un combat aussi présent dans ma vie, mais mon histoire personnelle fait que je n'avais pas le choix.
Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous êtes née donc à Bamako, vous avez grandi au Ghana et au Mali, et c'est au Mali que vous avez été excisée à 5 ans, à l'insu de vos parents, par votre grand-tante. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment qui a dû être extrêmement douloureux, ou est-ce que vous l'avez rayé de votre mémoire ?
Mais j'avais 4 ans et demi, on habitait au Ghana, à Accra, avec mes parents, où mon père travaillait comme diplomate, et j'étais rentrée à Bamako avec ma mère et mon petit frère, et parce que ma mère devait faire des démarches administratives, et mes deux parents sont contre l'excision. Et ma grand-tante m'a emmenée. Je n'ai pas de souvenir de la douleur, parce que je pense que c'est tellement intense qu'on l'occulte, surtout en tant qu'enfant. Mais par contre, j'ai un souvenir assez présent des pleurs des autres petites filles, parce que c'était une exciseuse qui nous excisait à la chaîne. Et ça, je m'en souviens très bien.
Et comment ont réagi vos parents quand ils ont appris ce qui s'était passé ?
Extrêmement mal, parce que je suis la plus jeune des filles. Je viens d'une famille de 7 enfants, dont on est 5 filles et 2 garçons. Et toutes mes sœurs ont été emmenées par un membre de la famille à l'insu de mes parents.
Là, le scénario s'était déjà produit auparavant.
Avec toutes mes sœurs.
Donc ça veut dire que vos parents faisaient malgré tout confiance, ou ils n'ont pas été assez vigilants, ou...
Ils ne peuvent pas surveiller leurs enfants 24 heures sur 24. Et on vit dans... J'ai grandi dans une société où un enfant est élevé, éduqué par toute la famille.
Par la famille, oui.
Par la famille. La famille est très présente. Et ce n'est jamais le même, ce n'est jamais le même membre de la famille qui nous a excisés, mes sœurs et moi. Donc, c'est toujours une surprise, c'est toujours une énorme trahison. On se dit que ça n'arrivera plus, parce que chaque fois c'est un scandale, chaque fois c'est une crise. Mais il y a toujours une personne qui pense avoir la bonne idée de « je vais le faire quand même ». Et ça, c'est tragique.
Quels étaient les arguments de votre grand-tante, de votre grand-mère pour justifier l'excision ?
Ma grand-tante l'a fait sur moi. Ma grand-mère avait arrêté deux sœurs plus haut, parce que ma sœur avait failli mourir d'une hémorragie, et ma grand-tante l'a emmenée parce que pour elle, la tradition a été son éducation. Elle n'avait jamais été à l'école, elle ne savait pas lire, pas écrire. Elle avait sa culture, elle la puisait dans la tradition. Donc elle pensait être dans son bon droit. Elle pensait me faire une faveur, elle pensait que, pauvre petite fille, elle n'est même pas excisée, je vais lui rendre service. Et donc c'est une vision qui est totalement ignorante. Et c'est pour ça que, personnellement, je pense qu'il faut beaucoup d'éducation et de sensibilisation pour faire comprendre aux gens le côté nocif que l'excision peut avoir sur la santé des femmes, et la santé physique, mais aussi mentale des femmes. Et donc, je viens d'une génération totalement différente. Je viens d'une génération... Mes parents étaient déjà une génération différente parce que déjà, eux ne voulaient pas que leur fille soit excisée. Et donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais je pense que de communauté en communauté, de famille en famille, il faut faire le travail sur le terrain.
Docteur Awa Camara, quelles sont les croyances liées à l'excision que l'on retrouve dans les communautés?
Beaucoup diront que c'est pour rendre la femme pure, parce qu'elle est impure quand elle n'est pas excisée. C'est en tout cas une des théories, de motifs en tout cas qu'on va retrouver. Certains vous diront que c'est religieux, or aucune des religions ne demande à ce que l'excision soit pratiquée. On trouve aussi des choses coutumières, c'est-à-dire que ça a été fait de femme en femme dans les familles, donc il faut perdurer. C'est des motifs en tout cas qu'on retrouve beaucoup en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, puisque c'est vrai que les patientes que moi je vois en tout cas à l'hôpital de Montreuil sont beaucoup issues de l'Afrique subsaharienne.
Les ONG, les agences de l'ONU font du travail de sensibilisation sur le terrain depuis des années et pourtant les taux d'excision restent dramatiques, notamment dans la Corne de l'Afrique, mais aussi en Égypte, au Soudan, en Guinée, au Mali. Le pourcentage de filles victimes de mutilations sexuelles se situe entre 85 et 98%. Pourquoi est-ce que les campagnes de sensibilisation donnent si peu de résultats selon vous ?
Parce que c'est extrêmement difficile de changer les mentalités et les traditions. Et d'ailleurs, je voulais rebondir sur ce que Awa disait. L'excision, ce n'est pas une affaire de religion, parce que les Coptes en Égypte le pratiquent. Et l'excision est pratiquée aussi en Indonésie, en Asie, en Amérique du Sud, dans certaines régions, en Colombie. Donc, quel est le rapport entre les traditions colombiennes, indonésiennes et maliennes? Et il n'y a pas de religion en commun, donc c'est un vrai problème de tradition. Et c'est très très difficile de faire comprendre aux gens que ce qu'ils ont pratiqué de génération en génération, auquel ils s'accrochent vraiment comme une partie de leur culture, leur faire comprendre que c'est nocif et que c'est extrêmement dangereux.
Est-ce qu'il ne faudrait pas tenter, dans les pays que je viens de citer, où le taux d'excision est toujours énorme, d'organiser des cérémonies solennelles marquant le passage de l'adolescente à la femme adulte et qui remplacerait l'excision? Je crois que ça a été fait au Kenya et au Sénégal avec Tostan et ça donnait de bons résultats.
Oui, d'ailleurs, j'étais marraine de Tostan en France il y a quelques années, avant que les bureaux ne ferment ici. C'est quelque chose qui, moi, je prêche pour ça, qu'il y ait des rites de passage qui soient très positifs et qui donnent de la force et que ce soit quelque chose de beau pour les jeunes femmes. L'excision n'a rien de bon. Ça n'a rien de bon. On peut le prendre, le regarder, l'analyser dans tous les sens possibles, ça n'a rien de bon. Donc le remplacer par un rite qui soit positif et empowering, je cherche les mots mais ça me vient en anglais.
Donne du pouvoir aux femmes.
Donne du pouvoir aux femmes, je pense que c'est très important, ça remplace quelque chose de terrible.
Oui, Awa, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Non, on parlait de rites de passage à l'adolescence, mais c'est vrai que dans beaucoup de pays, l'excision est quand même pratiquée sur les petites filles quand elles sont bébés.
C'est vrai.
Donc je pense au-delà du rite de passage, il y a vraiment quelque chose à faire, en tout cas à ce niveau-là. Parce que souvent, les patientes, les dames qu'on rencontre, elles vous disent, quand on leur demande la position de la famille par rapport à l'excision, elles te disent, mais ma mère est contre, ou elle a changé de point de vue, ou moi je suis contre, mais en même temps, on ne veut pas être les premières à commencer à s'opposer dans le village, par exemple. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, que les hommes ont aussi leur part dans cette histoire-là. Si les hommes se positionnaient face à l'excision et ne pas laisser ça en disant que c'est une histoire de femme ou dire nous ne voulons pas d'une femme excisée, peut-être que déjà ça changerait un petit peu au niveau des mœurs.
Ina Modja, à 22 ans, vous avez choisi la chirurgie réparatrice. Quel a été votre parcours jusqu'à cette décision ?
En fait, c'est assez incroyable parce que j'ignorais que la chirurgie réparatrice de l'excision existait. La première gynécologue que j'avais vue en France quand je suis arrivée pour faire mes études, pour aller à l'université, m'avait consultée et m'avait dit « Ah bah tiens, vous êtes excisée ». Et c'était un choc pour moi parce que je ne savais pas que mon excision était visible. Je ne connaissais pas assez bien mon corps, d'où l'importance de l'éducation sexuelle à l'école. Et donc je lui ai demandé, mais qu'est-ce que je peux faire ? Et elle m'a dit, rien. et elle n'était pas au courant. Et donc j'ai porté ce fardeau pendant des années, et un jour, par hasard, j'étais dans la salle d'attente d'un médecin et je lisais le magazine Elle, et je suis tombée sur un article sur le professeur Pierre Foldès qui a inventé cette technique de réparation, et j'ai appelé la clinique. Dès le lendemain, j'ai appelé la clinique pour prendre rendez-vous parce que j'étais persuadée que prendre mon destin à main, c'était récupérer cette partie qu'on m'a enlevée était très importante pour moi. C'était un premier pas.
Comment vous vous êtes sentie après l'opération? Est-ce que vous avez l'impression de renaître?
J'avais l'impression d'avoir des ailes. J'avais l'impression que tout ce qu'on m'avait toujours dit ou tout ce que j'avais toujours cru que je ne pouvais pas accomplir, j'en étais capable. Parce que pendant très longtemps, pendant de nombreuses années, je me suis dit, je ne suis pas femme à part entière. À un âge où j'étais une jeune adulte et je rentrais dans justement l'âge d'être une femme. Et donc ça m'a redonné espoir, ça m'a redonné... chaque expérience est différente, chaque femme qui passe par la chirurgie réparatrice n'a pas forcément... on n'a pas les mêmes expériences. Donc pour moi, personnellement, c'était renaître, revenir en arrière et récupérer ce qu'on m'avait dit que je ne récupérerais jamais. C'était une deuxième chance et je l'ai saisie avec mes deux mains.
On va retourner au standard où nous attend Adaé. Adaé, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez du Cameroun. On vous écoute, Adaé.
Oui, merci pour votre émission. C'était un moment de ma vie. Je vous ai contacté pour
régler certains problèmes. Adaé, on a beaucoup de mal à vous entendre. On va peut-être essayer de vous rappeler. Je vais expliquer à nos auditrices, à nos auditeurs, ce qui s'est passé pour vous. Vous avez été victime d'abus sexuels répétés par vos trois frères aînés durant votre enfance et votre adolescence. Vos parents le savaient mais n'ont rien fait. Vos frères ne se sont jamais excusés parce que pour eux, c'est normal. Aujourd'hui, vous avez 25 ans, vous voyez toujours vos frères mais vous ne leur parlez pas, et vous aviez envie de poser la question, comment faire pour oublier, parce que vous ne parvenez pas à avoir une relation stable, vous avez des difficultés à communiquer avec les autres. Docteur Camara, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Adaé?
Je pense que on n'oublie pas. On n'oublie pas, mais c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a vécu. Adaé a vécu des choses terribles et je pense qu'elle a besoin peut-être d'être accompagnée, d'avoir un soutien psychologique par exemple, de pouvoir en parler et de se réapproprier peut-être cette histoire. Mais je pense qu'on n'oublie pas. En tout cas, c'est difficilement oubliable. Et le fait qu'elle soit aussi confrontée à revoir ses frères toujours, et ce tabou, finalement, ce silence qui plane, est une grande souffrance pour elle.
On peut lui conseiller d'aller voir un psychologue, évidemment.
Un psychologue, ça peut être des groupes où il y a d'autres femmes qui ont vécu aussi des choses similaires. En tout cas, de pouvoir parler, de pas garder ça pour elle.
Alors Mariam nous écrit sur Facebook du Mali, je ne souhaite pas participer en direct à cette émission car parler de cette histoire m'est très difficile. J'ai été en couple avec un homme qui m'a fait beaucoup de mal, il voulait avoir des rapports sexuels tous les jours, tout le temps, il n'acceptait pas que je refuse. Aujourd'hui je ne suis plus avec lui, mais je ne sais pas comment faire pour oublier tout ça et me reconstruire. Docteur Camara, qu'est-ce qu'on peut dire à Mariam?
Pareillement, je pense qu'il faut pouvoir en parler, il faut rencontrer d'autres femmes, rencontrer des professionnels. Je trouve que l'exemple de la Maison des Femmes, par exemple, ça peut être un lieu ressource pour elles. Alors, je ne sais pas où... Non, elle est au Mali.
Oui,
mais j'imagine qu'il existe des associations au Mali. Enfin, là, je ne sais pas.
Les viols conjugaux sont encore plus tabous que les viols. Ça reste... Parce que souvent, c'est très incompris. Les membres de la famille à qui on pourrait se confier auraient tendance à répondre « mais c'est ton mari, donc ce n'est pas un viol ». Donc le déni de ça serait pour elle une deuxième souffrance. Et c'est très difficile. Ça montre qu'il faudrait des maisons des femmes au Mali.
Oui, ce serait votre projet.
C'est un projet qui me tient très à cœur. J'espère pouvoir un jour, en tout cas en Afrique subsaharienne, en ouvrir plusieurs.
Awa Camara, vous animez donc à Montreuil ce groupe de parole, L'Arbre à Palabre. Est-ce qu'il y a un témoignage qui vous a particulièrement marqué au cours de toutes ces sessions de L'Arbre à Palabre?
Il y en a plusieurs. Je me souviens en tout cas d'une dame qui avait vécu beaucoup de violences justement dans son pays, des viols. C'est une femme qui avait aussi subi des mutilations sexuelles. Et je me souviens d'une phrase qu'elle avait dit une fois dans le groupe. Elle dit « Mais on n'a pas toujours des parapluies ». Et je trouvais ça très beau parce que les parapluies finalement c'était les béquilles, les personnes qui peuvent être là pour justement les accompagner. Et je trouvais que sa parole dans le groupe en tout cas a été entendue parce que finalement en venant au groupe au départ elle ne parlait pas à cette femme-là. Mais elle écoutait les histoires des autres femmes. Elle pouvait entendre des histoires de grossesse, des histoires de migration, des histoires de violence. Puis un jour elle a pu prendre la parole et je trouve que... Cette phrase-là, je l'ai trouvée très belle. Effectivement, on n'a pas toujours des parapluies, mais on peut quand même avancer.
Ina Modja, parler, c'est essentiel pour guérir ?
C'est le premier pas vers la guérison. Pouvoir se confier, pouvoir vider son sac et partager avec un professionnel ou un groupe de personnes qui ont vécu la même chose, c'est très important. Ça permet de commencer à soigner son problème. S'en rendre compte, c'est une chose, pouvoir en parler, c'est pour moi, ça m'a changé la vie.
Et vous le faites aussi à travers vos chansons?
Absolument.
Grenade, Clara Luciani, c'est une chanson que vous avez choisie, Ina Modja, pourquoi ?
Oui, parce que j'aime beaucoup cette chanson, je trouve que c'est une chanson féministe, c'est un anthème, c'est un hymne pour moi. Et Clara Luciani, dans toute sa féminité et sa force, nous propose quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'est une très bonne amie, donc...
Merci beaucoup Ina Modja, merci beaucoup docteur Hawa Kamara d'avoir été avec nous. Ina, on vous retrouve ce soir sur RFI dans Couleur Tropicale avec Claudie Siard. Ce sera 21h10 heure de Paris, 20h10 temps universel. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à Setou Samaké et Ophélie Lassène qui m'ont aidé à préparer cette émission et à Didier Bleu qui l'a réalisée avec Anthony Bellard au standard pour les appels. Lundi, c'est Caroline Paré que vous retrouverez à ce micro pour parler de la place et des enjeux de la santé dans le grand débat national qui se déroule en ce moment en France. Si vous voulez poser des questions, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75. À demain et non pas à demain, bon week-end à tous, à lundi et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les brillants entrepreneurs, profitez d'une assurance épargne et réalisez vos projets en toute assurance. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.